Europe 1, il est 8h.
Dans l'ordre des choses, c'est quand même moi qui aurais dû partir avant eux. Dans ma deuxième vie, tous les instants doivent être beaux.
Des témoignages poignants et exceptionnels, ceux des survivants de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. 5 morts, 11 blessés, c'était il y a tout juste un an.
Déterminés mais sans illusion, les grévistes attendent avec scepticisme les annonces à midi d'Edouard Philippe. À ce sujet, votre invité politique, Sonia.
Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, il était hier au dîner à l'Élysée sur les ultimes arbitrages autour de la réforme des retraites. Alors que va annoncer le Premier ministre ? De la clarté ? Enfin, réponse à 8h15.
Nouvelle journée de manifestation nationale, mardi prochain. En attendant, ce sont les commerçants qui font grise mine.
Là, on va fermer la boutique. Il est 19h. Il faut que je me speed un max pour choper mon dernier train. C'est un peu la course. Oui.
Dans ce journal aussi, le sort de deux chercheurs français détenus depuis 6 mois en Iran. Et puis, veille d'élections anticipées en Grande-Bretagne.
La première cérémonie des Olympia Awards ce soir, à ne pas confondre avec les victoires de la musique. Une pléiade d'artistes, des révélations. Et puis... Catherine Ringer, bien sûr. Les Olympia Awards, c'est avec Europe 1. On va en parler à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk. Le long chemin vers la résilience, c'est le combat des survivants et des proches des victimes de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. C'était il y a tout juste un an, le 11 décembre 2018. Une attaque terroriste faisait 5 morts, 11 blessés. Puis, il y a eu 48 heures de cavale avant la mort de l'assaillant sous les balles des policiers.
Ces survivants, ces proches de victimes, comment est-ce qu'ils ont surmonté ce terrible choc ? Strasbourg, la résiliente, c'est l'enquête de notre correspondant dans le Grand Est, Arthur M.
La détonation extrêmement forte.
Le terroriste la regarde dans les yeux, la balle traverse ses deux manteaux, brûle son t-shirt et s'arrête là, à quelques millimètres du cœur de Martine.
Je ne devrais pas être vivante. Et les deux personnes qui sont décédées rue des Orfèvres étaient des jeunes. Donc, dans l'ordre des choses, c'est quand même moi qui aurais dû partir avant eux. C'est ça qui est compliqué, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, dans le processus de paix et de résilience que je tiens absolument à conserver pour avancer, parce que je me dis, dans ma deuxième vie, tous les instants doivent être beaux.
Touché mortellement à côté de Martine ce soir-là, Bartek, dont l'entourage, comme son ami Claire, incarne peut-être cette résilience strasbourgeoise.
C'est la grandeur de la maman de Bartek qui, quelques jours après avoir perdu son fils, a écrit un message aux parents du terroriste en disant qu'elle leur envoyait sa compassion à ceux qui avaient aussi perdu un fils. Bon, ben, quand il y a des gens aussi grands autour de vous, c'est quelque chose qui vous entraîne en fait... vers le haut et on peut choisir d'autres sillages, mais là c'était vraiment quelque chose de tellement bienveillant et grand, j'ai jamais eu de sentiment de haine.
Ce soir à 8h moins le quart, au moment où il y a un an commençait l'attentat, les cloches sonneront dans toute la ville. Les Strasbourgeois sont invités à déposer une bougie à leur fenêtre.
La résilience au micro Europa, notre correspondant dans le Grand Est, Arthur Mbaché. J'ajoute que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sera aujourd'hui à Strasbourg pour les cérémonies d'hommage.
Rendez-vous aussi sur Europe1.fr pour ce moment que nous avons partagé à 6h40, l'interview de Jeanne Bergaoui qui a pu recueillir le témoignage du chauffeur de taxi qui a transporté Chérif Chekat juste après son attentat. Il n'avait jamais parlé encore. C'est sur Europe1.fr, c'était à 6h40, tout à l'heure. Le Premier ministre doit clarifier les contours de la réforme des retraites à la mi-journée. Le tout dans un contexte social toujours très perturbé.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prise de parole d'Edouard Philippe est très attendue. Alors que va-t-il annoncer ? Les discussions ont duré jusque tard hier soir à l'Élysée lors d'un dîner d'ultimes arbitrages. Jean-Rémy Baudot, vous avez recueilli avec Aurélie Herbemont les confidences de quelques participants à cette réunion décisive.
Oui Sonia, ils étaient une vingtaine hier soir autour d'Emmanuel Macron. Ministre, ténor de la majorité, quelques parlementaires. Rien n'avait vocation à sortir avant le grand oral du Premier ministre à midi. Mais deux participants sont formels. Ce sont les générations, à partir de 1975, qui devraient basculer dans le nouveau système par points. Les régimes spéciaux auront eux un délai supplémentaire à partir de 1985. Avec ce rythme de transition, il est possible de convaincre les syndicats réformistes, CFDT et UNSA. C'est ce que veut croire un élu qui était avec le président hier soir, autour de cette grande table au rez-de-chaussée de l'Élysée. Pendant 4 heures, les échanges y ont été fournis, dans une ambiance studieuse, affirme un invité. Le président et le Premier ministre sont apparus sereins, glissa notre convive. « Tout est désormais arrêté », expliquait cette nuit un autre proche d'Emmanuel Macron qui a assisté au dîner. Ce mercredi, beaucoup de Français auront des réponses à leurs questions, espère ce macroniste historique.
Les informations de Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1. Je note aussi l'édition spéciale sur Europe 1 à partir de midi autour de Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve et de vos réactions après les mots du Premier ministre 39-21 et le hashtag Europe 1.
Justement, ces mots déjà, pas d'annonce magique a d'ores et déjà prévenu Édouard Philippe. Le gouvernement ne se fait pas d'illusions. Les annonces sur cette réforme ne vont pas apaiser la contestation sociale. Certes, plus faible comme on l'a vu dans les rues hier, mais avec des manifestants toujours déterminés.
Alors, ce qui inquiète évidemment, et vous le comprendrez, les commerçants qui subissent de plein fouet les conséquences de la grève, des blocages, des boutiques, des magasins, des restaurants dont l'organisation, le fonctionnement sont totalement chamboulés, comme a pu le constater Roman Hoquet dans le quartier de Châtelet à Paris.
Donc là, on va fermer la boutique, il est 19h, il faut que je me speed un max pour choper mon dernier train. C'est un peu la course, oui.
Avec la grève, Cynthia baisse le rideau de son magasin une heure plus tôt, quitte à mettre quelques clients dehors.
C'est problématique parce que du coup, c'est le moment où on réalise au moins 20% de notre chiffre d'affaires de la journée. Avec les fêtes qui approchent, là, on fait rien. Ouais.
Au supermarché d'en face, il manque un tiers des employés, regrette Mokhtar, le responsable. Et dans les rayons, la marchandise s'entasse.
Tous les cartons qui traînent ici, normalement, ça aurait dû être fait, ça. Il n'y a pas assez de personnel.
Comment on s'organise pour faire face à ça?
Comme moi, normalement, je suis né à 13h, là, je suis là jusqu'à 21h. Le mélange, les livraisons, je fais tout. On n'y arrive pas du tout.
Chez Ariane, c'est tout le contraire. Son restaurant est vide, comme la chambre froide, pas de livraison aujourd'hui.
Normalement, ça monte jusqu'au plafond et là, vous avez simplement aller deux rangées. Tout est reporté. C'est pour ça que nous, il y en a certains qui ont décidé de nous livrer la nuit.
Des livraisons qui risquent de lui rester sur les bras. Avec la grève, le restaurant a perdu la moitié de sa clientèle.
Reportage signé Roman Hoquet pour Europe 1.
Et la grève continue donc. Avec elle, les perturbations dans les transports. Très légère amélioration côté TGV. 1 sur 4 en moyenne, on ne peut pas non plus dire que ce soit de la folie. 3 TER sur 10, 1 Transilien sur 5 en moyenne.
Et côté RATP, toujours 10 lignes de métro fermées, même situation déjà prévue pour demain. Et l'exaspération a largement remplacé l'impatience auprès des usagers, des voyageurs et des automobilistes, avec en ce moment plus de 400 km de bouchons cumulés en région Île-de-France. Bonjour Pauline Jacquot, vous êtes en direct de la porte de la Chapelle à Paris où ce matin, les automobilistes accusent le coup après une semaine de grève déjà.
Oui, bonjour Sonia, bonjour à tous. Écoutez, je suis entre l'autoroute A1 à ma droite, le boulevard des Maréchaux à ma gauche et sous la pluie, comme tous les automobilistes et motards ici, porte de la Chapelle. Inutile de vous dire que la carte postale n'est pas idyllique. Alors après presque une semaine de grève, comment vit-on ce mercredi matin derrière son volant? On a posé la question vitre ouverte au feu rouge, juste à la sortie de l'autoroute.
Comment ça va ce matin, madame?
Super génial, franchement, il n'y a pas mieux.
On sent une pointe d'ironie.
Bah, bien sûr. Ça fait 1h10 que je suis partie, j'ai fait 10 km.
C'est terrible, hein. Très très terrible. Hein. Moi personnellement, je peux plus. De Charles de Gaulle pour Porte devant, j'ai mis 3h15.
En fait, on prend tellement l'habitude qu'à la fin, s'il n'y a pas de circulation, on panique. Non, sincèrement, c'est grave. Vous savez combien de temps ça va durer la grève?
C'est la question à 1000 euros ce matin, la fin de la grève. Pour le moment, nous pouvons simplement faire un petit point circulation. Embouteillage, donc Porte Maillot, Porte d'Orléans, sur la 6, sur la 1 depuis Roissy en direction de Paris et sur toute la A86. Et à 8h ce matin, comme chaque matin depuis lundi, tout le périphérique parisien est complètement bouché.
Mais vous lui avez répondu quoi, Pauline Jacquot, quand il vous a dit « vous savez quand on va terminer la grève ?»
Ah, j'ai dit je ne pouvais pas répondre pour le moment.
Vous avez raison, la prudence reste de mise. Pauline Jacquot en direct de la porte de la Chapelle à Paris pour Europe 1.
Europe 1. Et nous quittons le pays dans un instant en direction la Grande-Bretagne en cette veille d'élection où tout est possible. Et puis l'Iran avec deux chercheurs français détenus depuis fin juin. A tout de suite.
Il est 8h12 sur Europe 1, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Et en politique, on n'est jamais mort, comme on dit. La preuve, dès demain, peut-être, avec la résurrection électorale de Boris Johnson, le Premier ministre que certains avaient trop vite enterré, fait figure de favori.
Grâce aux Midlands, ces terres industrielles déshéritées du centre de l'Angleterre, bastion du Labour depuis toujours, plusieurs pourraient basculer côté conservateur. Le reportage à Dudley, près de Birmingham, de l'envoyé spécial d'Europe 1, Théo Manval.
Inlassablement, à chaque pavillon, lit en ses prospectus pour la candidate travailliste.
Oh, sorry.
Des tracts parfois vite froissés et jetés à la poubelle. La circonscription de Dudley North, travailliste depuis toujours, est en train de basculer, notamment à cause du Brexit. Ici, on a voté à 70% pour sortir de l'Europe, comme Michel, elle est infirmière.
Je vais voter Boris Johnson parce que j'en ai marre de tout ça. Je veux que le Brexit se fasse. C'est la première fois que je vote conservateur et ça me fait bizarre parce que je suis de la classe ouvrière. Mon père, ma mère, on a toujours voté Labour. Mais je n'ai plus confiance en eux. On a tous voté le Brexit et eux, ils veulent faire un nouveau référendum, ça suffit.
Ce référendum et les accusations d'antisémitisme à l'encontre du chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, occulte tout le reste. Lee a bien du mal à faire porter son discours.
Les conservateurs ont détruit cette région. Personne n'a plus souffert de Margaret Thatcher que les gens de l'ancien pays minier. Les écoles ont été dévastées et on a eu le plus gros taux de chômage du pays.
Quatre autres circonscriptions voisines historiques pourraient elles aussi tomber et permettre à Boris Johnson d'asseoir sa majorité. Dudley Théomanval, Europe 1.
À l'international, direction l'Iran à présent, où deux chercheurs français sont détenus depuis bientôt 6 mois. Emmanuel Macron réclame sans délai leur libération.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le président a tweeté pour préciser que leur situation était intolérable.
Intolérable, oui. Fariba Adelka est anthropologue et Roland Marchal, africaniste, deux chercheurs qui ont trouvé la police iranienne sur leur chemin. Ils ont été arrêtés début juin à Téhéran où ils s'étaient donné rendez-vous. Elle a la double nationalité, ça veut dire la double peine. Les gardiens de la Révolution la traitent comme une iranienne et comme une espionne. Lui a droit aux visites du consul de France. Il est accusé d'atteinte à la sécurité nationale. Ça fait donc 6 mois et une semaine que la France a 2 otages en Iran. Les diplomates ont ordonné aux familles de se taire. Ils prétendent que la médiatisation aggrave les conditions de détention. Les subtils ajoutent que les durs du régime veulent fragiliser le président Rouhani. Opposer les radicaux et les modérés, c'est toujours la même illusion qui désarme les centaines d'émeutiers iraniens abattus le mois dernier. Les milliers de suspects arrêtés depuis pleurent de ces sornettes savantes. Il n'y a que 2 côtés à une barricade.
Et Emmanuel Macron a lui-même renoncé à jouer les médiateurs.
Oui, en août à Biarritz, en septembre à New York, il avait poussé Hassan Rouhani à renouer le dialogue avec l'Amérique, toujours en vain. Aujourd'hui, il le somme de libérer les 2 innocents. Il aurait peut-être fallu commencer par là. Le temps, en tout cas, des Salam Alek est terminé. Tendre une bouée de sauvetage à un régime terroriste ne sert qu'à se faire mordre.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Première édition des Olympia Awards ce soir. Une toute nouvelle cérémonie avec Europe 1, retransmise en direct sur C8.
Et elle récompense les talents de la musique et de l'humour. Des révélations comme Romane Fraissinet ou Marina Rollman. Et puis, côté musique, des artistes plus que confirmés comme Alain Souchon ou Catherine Ringer. Allez, un peu de musique avec Angèle Châtelier.
C'est l'une des salles de spectacle les plus prestigieuses, mais il aura fallu attendre plus de 125 ans pour que l'Olympia distingue ses propres artistes. Une cérémonie à ne pas confondre avec les victoires de la musique, selon Laurent de Cernay, co-directeur de la salle.
Sur 2 piliers que va reposer cette soirée, à la fois humour et musique, le même ADN que celui de l'Olympia, mais évidemment, il fallait qu'il y ait aussi un clin d'œil. Donc en termes de programmation, on retrouve beaucoup d'artistes qui sont déjà passés à l'Olympia ou qu'on retrouvera bien.
Parmi eux, la chanteuse Pomme, le groupe Thérapie Taxi ou ceux qu'on ne présente plus, Alain Souchon ou Catherine Ringer. Nommé aussi dans la catégorie humoriste de l'année, Jamel Debbouze, Franck Dubosc ou Muriel Robin. Enfin, l'originalité de la cérémonie, c'est le public qui vote et non pas les professionnels.
Et on a envie que ça se prolonge, Mathieu.
C'est ce soir sur C8 avec Europe 1, les Olympia Awards.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
8h16, déjà, votre invité politique, Sonia.
Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Édouard Philippe n'a pas droit à l'erreur. Tout à l'heure, sur la réforme des retraites, le devoir de clarté s'impose. Enfin, on l'espère. Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.